Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Orales, le podcast qui s'intéresse aux secrets d'éloquence de professionnels à Bordeaux et parfois au-delà. Chaque mois, je pars à la rencontre d'orateurs et oratrices du quotidien en quête d'anecdotes insolites, d'outils pratiques et d'une bonne dose d'inspiration pour vous faire aimer prendre la parole en public. Comment envisager l'expression que l'on soit à la barre d'un tribunal, face à ses équipes ou devant un parterre d'inconnus ? Je suis David Jadar, formateur en prise de parole et entrepreneur. J'aide chaque année plusieurs centaines de professionnels à gérer leur trac et à s'exprimer de façon percutante en présentation. Installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil et bonne écoute. Bonjour Loïc.
Bonjour David.
Peux-tu te présenter en quelques mots s'il te plaît ?
Oui, très volontiers. Donc je m'appelle Loïc Rojouan, j'ai 54 ans. Je suis comédien, auteur, metteur en scène. Ça c'est mes trois activités principales en tant qu'artiste. J'ai eu aussi, et je vous expliquerai peut-être comment tout à l'heure, un double parcours, ni plus ni moins, d'homme de théâtre et d'homme de radio. J'ai travaillé 16 ans dans le groupe Énergie. L'un nourrissant l'autre, hein, mon métier d'acteur nourrissant mon métier d'homme de radio et vice versa, parce que j'ai appris des très très belles choses aussi en 16 ans de radio et en devenant petit à petit manager, directeur d'antenne. J'ai appris beaucoup de choses sur l'organisation d'équipe, le management, etc. La rigueur aussi, parce qu'en radio il faut beaucoup de rigueur. Et puis tous ces métiers-là, tous ces métiers-là m'ont amené à avoir un profil aujourd'hui de formateur, d'intervenant, d'accompagnant dans plein de domaines, les domaines bien sûr de la prise de parole en public, mais pas que, l'improvisation théâtrale au service des équipes, parce que j'ai fait beaucoup d'impro aussi au théâtre. Et puis l'écriture, parce que j'ai écrit une douzaine de spectacles, j'ai participé à l'écriture de séries télé au Canada, en France, et tout cela m'a permis donc aussi d'intervenir dans le domaine du storytelling, ce qu'on appelle le storytelling, donc les mécaniques du récit au service de notre propre histoire. Et puis maintenant, j'interviens de plus en plus, bien sûr en étant de fait directeur du Théâtre des Beaux-Arts, mais j'interviens de plus en plus en tant que directeur artistique, conseiller artistique pour aider les projets en termes d'écriture, de direction d'acteurs, de management d'équipe, etc. Voilà.
Je te remercie pour cette présentation, Loïc. Tu as un parcours plutôt éloquent en matière de travail de voix, de prise de parole. Tu l'as un petit peu évoqué, tu es donc comédien, tu fais aussi donc pas mal de voix off.
Beaucoup, oui.
Tu es metteur en scène, metteur en scène, pardon, directeur de ce joli café-théâtre, Théâtre des Beaux-Arts, donc à Bordeaux. Parmi toutes ces activités, laquelle préfères-tu ?
Très clairement. Être sur une scène et jouer, c'est de très loin, c'est la première chose que j'ai faite quand j'étais enfant même, donc ça vient de très très loin et c'est un bonheur intense qui demande un travail énorme, hein. On le verra tout à l'heure, on en parlera peut-être, c'est souvent une des idées reçues, on se dit c'est quelqu'un qui monte sur scène, qui est très à l'aise et qui fait, c'est un métier, ça s'apprend, ça se perfectionne, même à mon âge, moi je retourne faire des formations régulièrement pour approfondir encore mon savoir là-dessus, mais c'est le plus grand plaisir, c'est le spectacle vivant, c'est être là avec des partenaires sur scène. Moi, j'aime pas jouer tout seul, j'aime beaucoup jouer avec d'autres gens et puis avec du public qui est là. C'est un moment magique, absolument magique.
Je crois que tu es passé par le cours Florent, c'est
oui,
ça ?
Oui, en effet, c'est ma toute première école, on va dire. J'avais 17 ans, 1986. J'ai découvert les bases de ce métier avec un monsieur formidable qui s'appelle François-Xavier Hoffmann et qui m'a mis en contact avec les plus grands textes. Et puis voilà, même si après le métier s'apprend en dehors d'un cours, il s'apprend surtout le chemin que l'on fait avec d'autres metteurs en scène, au contact d'autres compagnies, d'autres acteurs, d'autres comédiens. Comment ça prend le métier. Mais il faut tout le temps, moi j'ai fait beaucoup de stages spécifiques, parfois uniquement sur le texte, le rapport au texte, uniquement sur le rapport scénique aux autres, uniquement sur l'impro, etc. Ce sont des métiers qui s'approfondissent tout le temps. Mais en effet, j'ai commencé par le cours Florent qui était à Bordeaux, bien avant celui qui existe maintenant, mais qui était là donc en 1986.
Voilà. D'accord, donc c'était le cours Florent de
Vraiment,
Bordeaux
ouais,
déjà.
Qui appartenait encore à François Florent à l'époque.
D'accord. Justement, par rapport à cette question question du texte. J'ai beaucoup de mes élèves ou beaucoup de personnes qui peuvent avoir cette peur redoutable de l'apprentissage d'un texte. Ouais. Comment tu prépares un rôle ? Parce que t'as joué à la télévision,
oui.
T'as joué dans la série Baron Noir notamment,
ouais.
Et pas que.
Non, pas que.
T'es aussi voix off The Mentalist, je crois.
Oui. Alors j'ai fait des doublages. Doublages. Ça, c'est encore autre chose. Ouais, le doublage est encore un exercice différent pour Mentalist, pour différentes séries télé, ouais, tout à fait. Alors, il y a deux choses dans ta question. Apprendre le texte, c'est une chose. Préparer le personnage, c'est autre chose.
Voilà.
C'est pas du tout la même chose.
Et comment tu travailles tout ça ?
Alors, ça dépend aussi sous la direction de qui on travaille. Il y a différentes écoles. Soit on commence souvent, certains metteurs en scène demandent que le texte soit su, qu'on le sache parfaitement avant d'attaquer les répétitions. D'autres vont commencer par ce qu'on appelle un travail à la table, c'est-à-dire d'abord, texte en main, on découvre et ça permet d'apprendre le texte en s'appropriant justement le personnage. Voilà, ça c'est une autre démarche. C'est pas du tout la même chose, ça dépend du temps dont on dispose souvent. Hein. Quand on a peu de temps, il faut arriver texte su, on gagne ce temps-là et on attaque les répétitions. Alors que si on a plus de temps, on peut se permettre de réfléchir beaucoup plus au perso, etc. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut aussi être très efficace et en très peu de temps essayer d'aller à la rencontre de son personnage. Et ce que tu dis est important. Pour moi, c'est vraiment... Alors, c'est pas moi qui la porte, cette méthode. Hein. Elle est connue. Mais préparer un rôle, c'est un voyage à mi-distance entre soi et le personnage. C'est-à-dire qu'on va... C'est comme la main et le gant, on dit toujours. Hein, en hiver, la main a besoin du gant, mais le gant n'a pas d'utilité s'il n'y a pas de main. L'un a besoin de l'autre. Et c'est vraiment à mi-distance. Il faut mettre un peu de soi dans ce personnage, mais il faut surtout aller à sa rencontre également. Voilà. Donc, il faut être à mi-chemin. Il ne faut pas faire du Loïc Rogement. Il faut faire aller puiser un peu dans Loïc, ce qu'il faut pour... rendre ce personnage crédible, mais aller se demander qui est ce personnage, il est fait de quoi, il bouge comment, ça passe beaucoup par le corps, ça c'est très important. Comment il marche, un rôle se marche, disait Peter Brook, ben voilà, comment il marche, comment il regarde les gens, comment il se tient, comment il se positionne par rapport à d'autres gens, ça c'est le travail qui passe beaucoup par le corps. En fait.
Et est-ce que à la manière de la méthode de Stanislavski et de l'Actor Studio, est-ce que ça passe par tes souvenirs et tes émotions propres ?
Alors, oui, mais corporellement. C'est-à-dire que on n'est pas là pour faire une psychanalyse. Hein. Il faut la faire avant, hein, dans ce cas-là, s'il faut en faire une. Mais ça passe plus par la sensation corporelle de, par exemple, la sensation corporelle chez moi d'être jaloux ou d'être en colère, ça va passer par le ventre, par l'intérieur. Et c'est ça que je vais mettre au service du personnage en rentrant dans sa peau, c'est ça qui n'est pas évident. Mais je ne vais pas aller me replonger dans des traumatismes terribles, etc., pour me remettre dans l'état chaque soir. Ça a ses limites, la méthode Stanislavski. Il faut surtout, on dit que c'est toujours un peu comme une plongée, il faut aller plonger en soi, mais il faut donner le petit coup de pied pour remonter à la surface aussi, et jouer tout simplement, et faire en sorte que le soir, quand les gens nous regardent, ils pensent qu'on est amoureux ou qu'on est en colère, pour de vrai, mais qu'en sortant de scène, on va raccrocher tout ça au porte-manteau, avec le costume, en fait, et on ne sera plus ni amoureux, ou amoureux de quelqu'un d'autre, mais pas de la partenaire qu'on a sur scène, bien sûr. Voilà.
Et j'ai l'impression, pour faire un lien d'ailleurs avec ton activité de voix off, qu'une des clés aussi, c'est la respiration. Que si je veux investir une émotion, la colère par exemple, c'est quelle respiration j'ai quand je suis en colère.
Bien sûr, c'est exactement ça. Tu le dis très bien, quand on est en colère, on ne respire pas de la même façon dans la vraie vie que 2-3 secondes avant, par exemple, avant d'apprendre quelque chose qui nous met en colère. Pareil, quand on est amoureux, quand on est peiné, quand on est très joyeux, la respiration, c'est la base de tout, de toute façon. Hein. C'est pour la voix, mais pas que, pour tous nos exercices d'expression. Voilà, on respire plus vite quand on a peur ou quand on est très joyeux, et puis on va respirer très doucement quand on va être serein, détendu, calme, etc. Donc c'est très basé là-dessus. Je te le disais, c'est très corporel en fait.
Et maintenant, pour en revenir au texte, alors récemment, j'ai vu le dernier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, et il y a DiCaprio qui apprend son texte en s'enregistrant sur une cassette.
Alors, c'est ça. En fait,
est-ce que toi aussi, comme DiCaprio, tu te...
Non. Encore un point que je n'ai pas en commun avec lui. Hein.
Mince.
Mais non, alors ça dépend de la mémoire des gens. Il y a des gens qui ont une mémoire visuelle. Et je connais des copains qui vont apprendre un texte en le recopiant de plus en plus eux-mêmes. Alors au début, ils le recopient, copie, comme ça, à côté. Mais petit à petit, ils s'en passent et c'est comme ça que ça rentre. Moi, pas du tout. Moi, c'est plutôt auditif. Ou alors, si j'ai un aspect visuel, c'est plus, c'est tout bête, mais je sais en le disant où est mon texte sur la feuille. Alors, bien sûr que le soir, quand je vais jouer, je ne vais pas penser à ça. C'est juste dans cette phase d'apprentissage. Je sais qu'en bas à gauche, je dis ça. Au milieu de la feuille, je dis ça. Et tout ça vient surtout aussi se mêler à ce qu'on fait avec le texte sur scène. On sait qu'on dit telle chose à tel endroit. Mais la règle de tout, c'est l'écoute de l'autre. C'est parce que l'autre nous a dit ça qu'on répond ça. Donc apprendre que les parties de son texte, ça ne suffit pas. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode de l'enveloppe. Avec l'enveloppe, on cache le texte de l'autre. Et comme ça, on cache son texte, pardon, et on lit le texte de l'autre. Et on se dit, tiens, par rapport à ce qu'il est en train de me dire, je réponds quoi ? Ben, je réponds ça, évidemment. Voilà. Donc c'est une question d'écoute aussi, évidemment, qu'un texte est écrit, s'il est bien écrit. C'est ça, on répond quelque chose en écoute à ce que l'autre nous a dit. Et donc, il y a une espèce de logique comme ça qui fait que...
Ça fait penser un peu à l'exercice du cadavre exquis, où je dois compléter la phrase précédente en la cachant.
Voilà. Qu'est-ce que l'autre vient de me dire ? Qu'est-ce que ça fait en moi ? Et qu'est-ce que mon personnage va répondre à ça ? Voilà,
tout d'accord, simplement. Hyper intéressant cette notion de jeu d'enveloppe et de phrase cachée, je ne connaissais pas. En m'appuyant un petit peu sur ton parcours, en faisant des recherches, Loïc, moi, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est que j'ai l'impression que tu as fusionné dans ton CV absolument tout un tas de rêves d'enfants, de métiers idéaux pour, en tout cas, il y en a pas mal que je t'envie, comédien, voix off, c'est absolument génial. Comment ma question est un peu naïve, comment on devient déjà animateur radio? Et puis ensuite comédien, quoi.
Alors là, tu vas voir que c'est... Moi, je pense qu'il y a quand même un petit fond de destin dans tout ça, parce que... le métier, il s'est imposé à moi. Il n'y en avait pas dans la famille, pas du tout. Seulement, il s'est passé que, comme beaucoup de familles, il y a eu un drame dans notre famille qui a fait qu'il a fallu qu'on sauve un peu chacun notre peau psychologiquement. Moi, j'étais tout petit, j'avais 6 ans. Et très vite, c'est devenu une sacrée bombe atomique dans la famille, ce drame-là, qui est la mort d'une sœur, hein, tout simplement, très jeune. Et ça s'est imposé à moi pour me sauver. C'est-à-dire que non seulement... J'ai regardé beaucoup la télé à l'époque, parce que j'étais un peu tout seul, mais mes frères et sœurs s'étaient eux-mêmes sauvés un peu partout, et pour se sauver, au sens propre du terme. J'ai beaucoup regardé la télé. À l'époque, à la télé, il y avait énormément de films et beaucoup de cinéma français formidable, des Chabrol, des Verneuil, des Melville, des Truffaut, etc. Avec des acteurs incroyables. J'ai regardé, ils m'ont nourri. Et puis, très vite, s'est imposé à moi aussi le fait de faire rire. J'adorais faire rire, tout petit. Je montais sur une table, je faisais rire en classe. Ça, c'était pas très, 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 très souhaitable, mais ça l'a fait. Je faisais rire dans des fêtes de famille, etc., etc. Ça m'a sauvé. Je me suis rendu compte que la vie pouvait être assez jolie comme ça, que j'arrivais non seulement moi à rire, j'aime beaucoup rire, mais que j'arrivais à faire rire les autres. Et puis, ça s'est imposé à moi. Et puis, à l'âge de mes 12 ans, j'ai vu un film qui a tout changé pour moi, qui m'a fait me dire « Je serai comédien », qui était « Les uns et les autres » de Claude Lelouch. Avec une pléiade d'acteurs incroyables, Nicole Garcia, Dussolier, Piccoli, etc. Et ça s'est imposé à moi. Et je me suis dit, je ferai ce métier, il n'y a pas à tortiller. Et à 17 ans, j'apprends qu'il y a à Bordeaux le cours Florent. Et au bout de 3-4 sessions au cours Florent, je vois une petite annonce, un casting, c'est là où il y a du destin, je pense. Recherche voix off pour faire des publicités. À l'époque, les radios libres venaient de naître. Énergie, notamment, née en 84, on était en 86. Et je vais passer un casting, parce qu'on me disait, tiens, t'as une jolie voix, tu devrais essayer. J'y vais et je fais ma première pub radio, ma première voix off en radio. Et puis, il se trouve que le monsieur qui me faisait passer cette voix off, c'était celui qui est devenu le directeur du Théâtre des Salinières à Bordeaux après, Frédéric Boucher, avec qui on est devenu très amis. Il n'avait pas ce théâtre à l'époque, mais il m'a fait jouer dans une pièce qui s'appelait du cerfeuil dans les oreilles à cette époque-là. Donc, tous les soirs, très rapidement, à 17 ans, je jouais devant un public, j'étais payé, j'avais cette immense chance-là. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce métier. Et voilà comment ça s'est fait. Et ce double parcours d'homme de scène et d'homme de radio, il s'est fait devant moi. Je l'ai pris à bras le corps parce que je ne me suis pas fait prier, puisque je me disais depuis 5 ou 6 années, je serai comédien, c'est ma vie. Je remercie au passage ma maman, notamment, qui n'a jamais rien fait pour me dissuader de faire ça, qui m'a toujours dit fais-le, parce qu'elle avait été empêchée de faire le métier qu'elle voulait faire. Elle voulait être couturière, elle n'a pas pu l'être. Et elle m'a dit écoute, tu feras ce métier-là. Je pense que ça lui a fait très peur, mais qu'elle ne me l'a pas dit. Et voilà, et ça s'est fait. Et puis après, par contre, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, extrêmement volontaire, extrêmement travailleur aussi, parce que rien ne se fait sans le travail. Hein. Et donc, je suis très vite aussi passé du côté de la barrière de l'écriture pour écrire moi-même mes propres spectacles, etc. Ça, j'en ai écrit plus d'une douzaine au total. Et puis, j'ai rencontré comme ça des gens comme, en effet, Frédéric Boucher, ensuite Xavier Vuitton à une époque qui avait ce théâtre avant nous, etc. Des gens. Et puis, après, je suis parti de ce réseau-là pour me faire une autre... C'était un réseau très comédie, J'adore la comédie, mais il fallait que je découvre autre chose, vieillissant un petit peu. Et plein de gens me disaient, mais tu devrais découvrir autre chose. Et puis voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait. J'ai été me former ailleurs. J'ai été découvrir aussi quelle était ma part de tragédien et pas que de comique. Et tout ça, voilà, et ça s'est fait comme ça. Mais c'est beaucoup de travail, mais quand on a un métier passion, le travail est agréable. C'est ça, surtout, je fais les métiers qui me font grave kiffer, pour parler un peu de Jones. Mais voilà, c'est surtout ça, quoi.
Et pour quelqu'un qui souhaiterait devenir comédien aujourd'hui, est-ce que tu recommanderais obligatoirement de passer par le cours Florent ou le conservatoire ?
Alors non, il faut passer quand même par une formation. Ça, pour moi, c'est essentiel. Parce qu'il y a des bases de métier. Sur la voix, sur comment on projette sa voix, comment on se positionne sur une scène, comment on construit un personnage, etc., etc. Il y a des bases. Alors, elles s'apprennent où on le souhaite, selon ses moyens aussi. Hein. Il y a des écoles plus ou moins chères que d'autres. Il y a des concours d'entrée, etc., etc. Mais il ne faut pas se décourager. Quelqu'un qui n'en a jamais fait, il faut déjà commencer par le faire dans une troupe amateur, tout simplement. C'est très important. Et j'incite aussi les parents à bien écouter les desiderata de leurs enfants. S'ils vous disent, j'ai envie de faire du théâtre, de grâce, laissez-le faire du théâtre, parce que c'est une école formidable, même pour la vie, même s'il ne devient pas comédien, c'est une école formidable. Moi, je vois beaucoup de gens qui découvrent, mais trop tard souvent, ou très tard, le simple fait de monter sur une scène et de s'exprimer. En plus, ce qui est bien au théâtre, c'est qu'on ne s'exprime pas soi, on s'exprime dans la peau d'un personnage. Ça aide beaucoup de gens qui souffrent de timidité ou de difficulté à s'exprimer, parce qu'ils se disent, c'est pas moi en fait, j'y vais, mais je suis dans la peau d'un autre ou d'une autre. Ça aide beaucoup. Donc, laissez faire du théâtre aux enfants, même incitez-les, pourquoi pas en faire, parce que ça, c'est une très belle école pour oser s'exprimer, après tout simplement devant des gens, pour le travail ou quoi que ce soit.
Tu évoquais tout à l'heure les stages, que tu as fait beaucoup de rencontres, tu vas vraiment de l'avant pour rencontrer différents professionnels, mais comment tu continues de te nourrir en termes de... Est-ce que tu as des exercices que tu fais pour la voix off, par exemple, oui, comme comédien? Comment tu continues de te nourrir au quotidien, en coulisses, toi, Loïc?
Il y a deux choses. Oui, effectivement, il y a des exercices que je fais tous les soirs avant de rentrer en scène. Alors, il y a des comédiens qui n'en font absolument pas, il y en a qui en font énormément, parfois pour 10 minutes sur scène. Moi, voilà, j'ai mon petit rituel qui est à la fois corporel, respiratoire, mais qui est assez condensé. Et puis après, c'est plus sur l'articulation. Voilà. Tiens, je vais te livrer un secret. Je dis la même phrase tous les soirs. Donc, c'est en général, c'est Association d'athlétisme du Crédit Agricole. Pourquoi ? Parce que ce sont que des mots que j'ai du mal à dire. Je ne sais, ma bouche qui est fichue comme ça. J'ai du mal à dire Crédit Agricole. Tu vois, là je m'entraîne devant toi. Athlétisme, tu entends athlétisme, mais pas athlétisme, j'ai du mal à le dire, et association aussi. Donc, Association d'athlétisme du Crédit Agricole, ça me dénoue un peu le verrou, buccal, on va dire, et donc ça m'aide à... Et puis, après, il y a autre chose, c'est que je lis énormément sur le métier d'acteur, les livres de Peter Brook, de Michel Bouquet, je viens d'en lire un très bon que je ne connaissais pas, de Michel Serrault qui parle de son métier, qui est passionnant, de Michael Lonsdal. Je lis énormément les grands noms de notre métier pour en savoir encore plus et voir comment eux l'abordent, parce qu'il y a des écoles très différentes, tu vois. Et ça m'apprend encore beaucoup de choses. Et je me dis, oh oui, oui, c'est évident ce qu'il dit, je ne m'en rendais pas compte, mais voilà. Ça, je lis énormément, énormément.
D'accord. Et en matière de formation à la prise de parole maintenant, quel lien tu fais entre ton passé d'animateur radio ? Est-ce qu'il y a des choses que tu utilises en formation à la prise de parole ? Par exemple, un de tes clients ou une de tes clientes a beaucoup de mal à projeter la voix, à bien articuler, parle très vite. Est-ce que tu as un exercice, un truc pour...
Ce sera plus des exercices liés à la scène, pour le coup. Parce que tu sais que très souvent, les animateurs de radio, ils sont, comme on dit, dans leur bocal. Et quand j'ai travaillé très longtemps dans le groupe Énergie, on demandait à ces animateurs de radio de sortir de leur studio pour aller parler de leur radio. Et ça, ils avaient énormément de mal très souvent. C'est pas du tout la même chose que d'être devant son micro avec son casque et sa table de mixage et puis de sortir. Donc les méthodes que je prends sont plus des méthodes théâtrales, parce que la vie est un théâtre, hein, et la prise de parole, on se théâtralise véritablement. Donc en effet, j'utilise beaucoup ce que je t'ai dit tout à l'heure, parce que même en entreprise ou dans quelques milieux, on a un rôle social, on a un rôle professionnel et on est pour autant une personnalité. Et je fais beaucoup travailler ce va-et-vient entre les deux, parce que très souvent à l'oral, les gens vont tout capitaliser sur leur capacité professionnelle, mais livrent très peu d'eux. Or, La vraie cohérence, le vrai charisme pour moi, c'est cette rencontre entre qui l'on est et ce que l'on fait. Et quand les deux sont cohérents, waouh, on a en général devant soi une personne qui nous fait nous dire « Ah ouais, il est à la bonne place, elle est à la bonne place, dans le bon rôle et elle le vit pleinement. » Donc je travaille beaucoup là-dessus, qui est ni plus ni moins qu'un rôle de je prends un personnage à bras-le-corps et je l'incarne. Et cette incarnation à l'oral, même professionnel, le quotidien même, elle est très importante pour moi. Donc, je la fais beaucoup travailler. Et c'est marrant comme après, les choses vont de pair. C'est-à-dire que la voix sort mieux, la présence physique est là, tout va de pair, en fait. Dès que les gens ont compris cette mécanique, déjà, ça les rassure. Ils se disent, OK, c'est pas que moi, tout nu devant tout le monde, que le vieux cauchemar qu'on fait quand on est petit, aller à l'école tout nu et tout.
À toi aussi.
Voilà. Eh ben non. Ils se disent « Ah ok, j'ai ce personnage, j'ai ce rôle-là professionnel, et comment je fais le lien entre les deux voilà. ?»
Ce que tu dis, Loïc, me fait penser aux propos de Stéphane André, qui a fondé l'école de l'art oratoire, qui a écrit ce livre « Le secret des orateurs ouais. », où il développe cette notion de personne et de personnage de l'orateur.
C'est exactement
et,
ça.
Et il s'inspire beaucoup, il vient du théâtre, il s'inspire beaucoup des techniques, des outils de l'acteur, et il dit qu'en fait, l'orateur, pour être bon orateur, il faut construire un personnage à partir notamment de techniques d'ancrage.
C'est ça.
Le dos, la posture, l'ancrage au sol et puis surtout le regard. Mmh, et ça me fait penser à ce que tu dis
là. C'est exactement ça, on est là-dedans. Et c'est surtout que, alors ce que je rajouterais moi, attention au personnage, à ne pas être que dans le personnage, parce que certaines personnes après, même et après dans leur pratique professionnelle, pas que l'art oratoire, mais vont être dans ce personnage. Par contre, on n'arrive pas à savoir qui y a derrière. On le dit, ça souvent dire, mais alors qui est ce bonhomme, qui est cette bonne femme ? C'est là où il faut justement arriver à ce qu'on puisse voir une rencontre cohérente entre les deux. Ah oui, très souvent quand on a, ben, par exemple, j'ai eu moi des managers, des leaders qui m'ont marqué, que j'ai adoré. Eh ben, si je regarde bien, si je réfléchis bien, j'aimais autant leur façon de faire leur métier que la personne qu'ils ou elles étaient. Et où je me disais, ben, tout ça est cohérent en fait. J'aime vraiment bosser avec cette personne, elle me fait rêver, elle m'emmènerait au bout du monde, mais parce que la personne est aussi forte que son rôle professionnel.
Il y a une phrase qui m'a marqué en ce sens quand je suis arrivé chez Decathlon et que je me suis formé au métier de manager. Je crois que c'est un monsieur qui s'appelait Patrice Landais, il nous fait une formation à la fonction de manager et il nous dit, la greffe prendra avec votre nouvelle équipe le jour où vous aurez fait tomber le costume et qui sauront qui vous êtes.
Eh ben voilà, il avait tout compris ce monsieur.
et ça, je me la suis notée et j'ai pas eu besoin de la relire, ça doit faire plus de 6-7 ans maintenant. Je m'en souviens, elle est gravée et je suis complètement d'accord avec ça.
Alors attention, parce que parfois des gens me disent « Oh là là, mais... » et de nos jours en plus c'est un peu dangereux. Attention, on n'est pas là pour livrer notre intimité. Ça n'a rien à voir avec l'intimité, l'intime reste intime. C'est simplement la personnalité, et j'irai même un peu plus loin, tout ça fait la singularité. Nous sommes tous différents les uns des autres, même avec une même fonction. On fait un peu le même métier par moment, toi et moi, hein, puisqu'on est coach de prise de parole en public, mais on est fondamentalement différents, et si on prend un troisième comme Paul Wiliat que tu connais aussi par exemple. Paul, qu'on salue évidemment. Il est fondamentalement différent de nous deux et c'est ainsi pour tout le monde avec une même fonction quasiment. Bon, eh ben c'est notre singularité. Moi, j'insiste beaucoup pour les jeunes notamment qui et c'est normal comme ils commencent, ils ont souvent envie de ressembler à des modèles. Non. Ça ne sert à rien, ils ne seront jamais ce modèle-là, qui ne sera jamais eux-mêmes non plus. Ils ont une vraie singularité. Cette singularité, c'est à la fois eux et ce qu'ils font et leur parcours aidant et qui va faire une vraie singularité. Voilà.
Ouais, je suis évidemment complètement d'accord avec ça. En art oratoire, je pense souvent à Barack Obama. Ouais. Mais le problème de Barack Obama, c'est que c'est tellement, d'un point de vue technique, hein, sans parler de politique, mais sur le plan technique, c'est tellement fort. Et puis c'est une voix, c'est une énergie, c'est un corps. Que ça paraît en même temps inaccessible.
C'est ça, exactement.
On peut avoir une très belle technique, mais il faut avoir son style à soi, effectivement. Quel projet te manque aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu aimerais ? Parce que tu fais plein de choses, tes semaines doivent être bien pleines. Tu es à la fois gestionnaire d'un beau café-théâtre à Bordeaux.
Ouais. Un théâtre, pas un café-théâtre.
Pardon.
Il n'y a plus de table, c'est un théâtre.
Ouais, un théâtre, voilà. Pardon.
C'est
ça fait deux fois en plus que je
c'est
le dis.
C'est pas grave du tout, t'inquiète pas.
un théâtre, le théâtre des Beaux-Arts.
Je vais continuer cette interview, malgré tout.
Yes, ouf. Et t'es à la fois gestionnaire, t'es comédien, t'es, tu fais plein de choses. Qu'est-ce que t'aimerais concrétiser maintenant ?
Alors, j'insiste pour dire que la gestion est de plus en plus, repose de plus en plus sur une autre personne qui est vraiment mon bras droit maintenant, qui s'appelle Maëlla Piriou, qui est l'administratrice de production. Parce que ça, c'est le truc que j'aime le moins faire, tu vois, la gestion, vraiment. Et puis, je crois que j'ai pas vraiment un immense talent là-dessus. Non, ce que j'aimerais faire, je vais presque dire pour mes vieux jours, hein, puisque j'ai 54 ans, donc je suis plutôt sur la pente descendante quand même de la montagne, on va dire. J'aimerais encore peut-être après m'occuper d'un festival, monter un festival avec une vraie scène itinérante dans l'espace public. Je ne sais pas où encore, hein, je suis en train d'y réfléchir, mais j'aime bien cette notion du festival, le jouer en plein air, sous les étoiles, et apporter, voilà, aller vers les gens, pas forcément avec du théâtre de rue, parce que ça, on en a eu énormément, c'est très bien que ça existe, hein, le théâtre de rue, mais il y a des dizaines de festivals de théâtre de rue en France.
À Libourne notamment ?
Notamment, au Festart, bien sûr, à Aurillac, à Chalon, il y en a partout, à Angers aussi. Mais plus du théâtre, du vrai théâtre dans la rue, ce qui n'est pas facile à faire techniquement parce qu'il faut une scène avec des entrées, des sorties, des lumières, etc. Mais je suis en train de réfléchir à tout ça. C'est quelque chose, on y réfléchit avec plusieurs personnes autour de moi, là, qu'on aimerait bien mettre en place, à Bordeaux peut-être, et peut-être aussi dans la région. Voilà, on réfléchit à ça. Voilà.
Très bien. Et maintenant, on va aborder, c'est une question que j'aime bien poser à mes invités. Il y a évidemment autour du métier de comédien, il peut y avoir, et autour du métier de formateur en prise de parole, beaucoup de fantasmes et de clichés. Mmh. S'il fallait démonter un cliché autour d'un de tes métiers aujourd'hui, lequel aimerais-tu démonter ? Aimerais-tu contredire ?
C'est un peu celui que je disais tout à l'heure, c'est que souvent, mais on doit faire notre mea culpa, nous les artistes là-dessus, en France notamment. Les gens pensent que c'est pas vraiment du boulot, que c'est un métier passion et qu'on fait ça parce qu'on est à l'aise sur scène et on est à l'aise avec ça. Non, c'est un métier, ce sont des métiers. Alors, je dirais presque pourtant qu'on est peut-être les plus feignants quand on compare avec des musiciens ou des danseurs, par exemple. Des danseurs qui font des heures et des heures à la barre, des musiciens qui répètent des heures et des heures leurs partitions, voilà, etc. C'est très rigoureux. Alors nous, on n'a pas notre partition, mais on a le texte. Hein. Si on est professionnel, on doit respecter le texte à la lettre, c'est pas rien. Mais on nous dit souvent, là vous avez improvisé. Non, c'est un vrai job, il y a des vraies techniques, etc., etc. Mais on doit faire notre mea culpa parce que... on dit aussi, nous, les comédiens, qu'on n'est pas franchement comme les autres gens, on est plus sensible, on a le droit d'être malheureux, on a le droit d'être odieux. Non, ça a assez duré, tout ça. Ça, c'est très franco-français, hein, c'est le romantisme un peu... du 19e siècle, de l'artiste malheureux, maudit, etc. C'est pas ça. Dès qu'on sort un peu de notre territoire, qu'on va aux États-Unis, au Canada, etc., comme j'ai eu la chance, on s'aperçoit que ces gens nous regardent en nous disant « Eh les gars, vous êtes sympas, mais si, on est des gens comme les autres. Madame Michu, qui bosse dans la boulangerie d'en face, elle a le droit d'être aussi sensible que nous, elle a le droit d'être aussi malheureuse, etc., etc. Mais elle va pas le dire, alors que le comédien, lui, va souvent. C'est un cliché, moi aussi, que je fais, hein, j'avoue, je force le trait. Mais très souvent, on a ça. Oh, les comédiens, ils sont un peu comme ça. Ils sont toujours... Voilà, c'est un peu l'artiste maudit en haut de sa colline. Et voilà. Ben non, c'est pas ça. On peut très bien vivre de son métier. Hein, on peut bien vivre de son métier. Il suffit d'être curieux et de bosser énormément, mais comme tous les métiers, après tout. Hein. Mais on peut vivre de son métier. On peut avoir le droit de vouloir être rémunéré pour ce qu'on fait aussi. Hein, c'est pas un gros mot. Et c'est pas pourtant qu'on a vendu notre âme au diable. Ben non, il faut qu'on vive. Hein, et voilà. Et donc, c'est bien aussi de savoir défendre son bout de gras pour être payé comme il faut, et voilà, etc.
Je vais rebondir sur ta dernière image et le mythe faustien de vendre son âme au diable. On rebondit sur le romantisme, tu as parlé de ça.
Ouais.
Je crois que c'est aussi le romantisme, pour en avoir discuté avec certains profs de rhétorique, c'est aussi cette idée de romantique, de poète maudit ou des élus. Il y a ceux qui sont élus et il y a les autres, qui a beaucoup forgé cette mésentente autour de la prise de parole en public. Ça ne s'apprend pas.
Voilà, c'est ça.
Il y a les autres orateur né, il y a les autres.
Voilà.
Ce qui est une vaste bêtise.
C'est une vaste bêtise, ça s'apprend, il y a des techniques. Regardez, c'est comme, demain, moi j'en ai jamais fait, j'ai envie de jouer du piano. Maintenant, il y a des tutos pour jouer du piano, il y a des techniques. Pour faire la cuisine, c'est pareil. Alors, on sera peut-être moins doué qu'un autre qui a peut-être le génie de la musique ou de la cuisine, mais on peut très bien savoir faire un très bon plat. La prise de parole, c'est exactement pareil. Le seul handicap qu'on a énorme en France, c'est notre système éducatif qui ne nous a, en tout cas moi, ma génération, absolument jamais appris à être à l'aise avec ça. C'est aussi très judéo-chrétien, je crois. C'est parce que c'était le beau parleur et c'était le gars qui voulait nous vendre n'importe quoi. Hein.
Et puis le comédien qui faisait concurrence au Moyen-Âge à la parole de l'Église, exactement, à l'autorité de l'Église.
Exactement, et qui mentait, donc qui ment forcément. Et puis il y a encore des gens qui nous disent ah « ben, t'es un bon comédien, tu dois être un bon menteur ».
Un bon menteur,
ouais. C'est pas un bon menteur puisque tout le monde sait dans la salle que c'est déjà faux. On ne berne personne. Après, c'est le cerveau qui va faire son œuvre et que peut-être que nous-mêmes, on va parfois pleurer le soir tellement on est emporté par notre truc. Mais tout le monde sait que c'est faux, c'est du carton tout ça.
Oui, voilà. Puis on peut être étonnamment surpris de la dichotomie entre le personnage et la personne de l'acteur. Je pense à Jacques Villeray, qui était un clown triste, qui était un monsieur éminemment triste, seul. Si on consulte
Robin Williams aussi,
Robin Williams,
extrêmement
terrible,
dépressif, ouais. Etc., etc.
Jim Carrey.
Ouais, Jim Carrey. Mais
donc pour le coup, il y a de l'authenticité.
Oui, voilà. Ça, par contre,
leur personne est très authentique.
Un mot sur lequel j'aimerais revenir, moi, c'est la sincérité. Voilà. Ouais. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que quelqu'un va me dire ah oui, mais t'as dit tout à l'heure que t'étais pas en colère et tu vas jouer le gars en colère. Ben oui, mais dans ce jeu de la colère, je vais essayer d'être le plus sincère possible, qu'elle ne soit pas éloignée de moi. En effet, qu'elle soit le plus proche de moi et que j'essaie vraiment d'être au plus proche de ce que va. Si c'est la colère, de comment elle résonne en moi. Voilà, c'est ça qui va se faire. Et c'est pareil en prise de parole en public. Je dis toujours aux gens, attention à être au propre avec ce que vous dites pour pouvoir être sincère. Et c'est souvent le grand problème dans certaines entreprises où on fait porter aux gens des messages qu'ils n'ont pas envie de porter, en fait, donc ils ne peuvent pas être sincères, en fait.
Oui, notamment dans le management, on pose aussi au ministre où il faut porter un message qui, des fois, n'est pas le sien, qui peut être difficile. La communication de crise.
Évidemment, très difficile.
Effectivement. Une question me venait, oui, on parle du métier de comédien, on a cité. C'est la première fois que je vais poser cette question-là. Si tu devais être un personnage de fiction éloquent, et j'ai quelques exemples.
Ouais.
Je pense à Don Draper dans Mad Men, ouais. Je pense à Saul Goodman dans Better Call Saul. Il y en a des tas, j'en oublie évidemment plein. Tu choisirais qui?
Alors
et pourquoi?
Moi, je suis un immense fan, c'est marrant que tu aies pris cette... un immense fan de Don Draper et de Mad Men, parce que pour moi, c'est une des meilleures séries au monde, pour plein de raisons. Mais son personnage, surtout, est incroyable parce qu'il est très ambigu. Il a un secret, on ne va pas spoiler si les gens n'ont pas vu Mad Men, mais il a un secret énorme. Et donc, il est extrêmement ambigu et c'est ça qui est très intéressant. Moi, je plongerais sur le personnage de Don Draper, évidemment.
Il y a une scène qui m'a marqué, c'est le carrousel de Kodak, où il doit pitcher le carrousel de Kodak et les clients, ses clients potentiels qui vont, Kodak, les gens de Kodak vont finir en larmes.
Voilà, c'est...
Parce que justement, et ça illustre ce que tu disais, en fait, il a au milieu de son personnage de chef de publicité, il a mis de sa personne.
Oui,
il a utilisé le storytelling, il a parlé de sa propre famille.
Évidemment.
Et voilà.
C'est formidable parce qu'à la fois, ça peut paraître complètement désuet parce que c'est le monde de la publicité des années 50 et la société des années 50 américaine, mais pour autant, c'est intemporel. Ça, avoir alimenté son propos avec sa véritable histoire et de cette façon-là, ça fait chou blanc.
Et puis, on va sortir un peu de nos métiers, mais il faut aussi savoir qu'Edward Bernays, le théoricien de la publicité moderne, qui a écrit Propaganda, je crois, c'est le père de la publicité, de la persuasion moderne. C'est des techniques qui sont encore utilisées aujourd'hui. Donc, ça se regarde aussi pour ces raisons-là. C'est que les techniques qu'ils utilisent dans la série sont des techniques qui ont été utilisées réellement.
Bien sûr.
Notamment pour Lucky Strike
et
tout ça.
Ouais.
Maintenant, si tu pouvais accompagner une personnalité célèbre sur la prise de parole en public, ça peut être dans le domaine du business, de la politique, sans parler d'idées politiques, mais que de techniques, qui est-ce que tu choisirais et pourquoi?
Alors, c'est un peu rétroactif, ça ne date pas d'hier, mais j'avais été sidéré de voir comment Ségolène Royal était mauvaise à l'oral. Et j'avais appris plus tard que pourtant, elle avait pris les conseils de Dominique Besnéard, donc grand casteur, grand agent d'artiste, etc. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et je me disais, mince, alors elle faisait des gestes n'importe comment. Elle tenait son, à un moment, elle tenait son micro comme un rappeur. Ça ne lui allait pas du tout, évidemment, c'était complètement débile. Bon, bref. Après, j'ai compris parce que j'ai approché, tout à fait par hasard, le milieu d'un homme politique régional, on va dire. Et on m'a demandé quelques conseils pour le manager. Et j'ai dit, déjà, il y a ça qui ne va pas, ça qui ne va pas, ça qui ne va pas. Et on m'a dit, oh, on ne pourra jamais lui dire, ce n'est pas possible. Donc, j'ai compris qu'il y avait une certaine terreur, en fait, des gens qui bossent pour certains de ces gens-là et qui se disent, on ne pourra jamais lui dire. Donc, on ne lui dit jamais et donc, il ne peut pas progresser. Voilà. Et je me disais, c'est quand même un monde, parce qu'ils dépensent des fortunes parfois à prendre des coachs, qui certainement se cassent les dents là-dessus, en se disant, écoute, moi j'ai bien voulu lui dire, mais on ne veut pas lui dire. C'est-à-dire que les gens d'en dessous ne veulent pas lui dire de peur de, le froisser. Et je me pose toujours ça comme un problème. Moi, je travaille beaucoup avec des petits élus, on va dire. Alors, ce n'est pas péjoratif, c'est des élus de petites communes. J'interviens pour un cabinet qui est spécialisé là-dedans, qui s'appelle Stratégie Locale, où on forme des élus de petites communes, donc des gens comme toi et moi, qui n'ont pas forcément de carrière politicienne, on va dire, pas du tout même, au contraire. L'un est le boucher de son village, l'autre le prof de sport du collège, et ils se retrouvent dans une équipe municipale. Et avec un jeu politique très dur, notamment au conseil municipal, avec l'opposition en face, etc., où ils sont dans l'opposition et ils se retrouvent face à la majorité. Et c'est très dur, c'est très très violent ce jeu-là, et j'essaie de les aider, ça les aide parfois, mais la politique, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Ouais.
Et je te rejoins complètement pour en avoir aussi accompagné de mon côté, notamment via Concilio, qui est un autre cabinet à Bordeaux, un organisme de formation. Moi, ce qui me vient en tête, c'est qu'ils sont aussi souvent dans une logique de petites phrases.
Exactement.
Il faut que j'ai le dernier mot.
C'est ça.
Un peu la logique Schopenhauer, dialectique, avoir toujours raison.
C'est ça.
Et aussi, on serait surpris, le grand public serait surpris de savoir aussi que c'est des gens qui sont souvent seuls dans leur fonction et qui ont un niveau politique qui est inversement proportionnel à leur niveau en communication.
Exactement.
Parce qu'ils viennent souvent de la même génération que tu évoquais, pas d'accompagnement à l'école. Contrairement aux Américains, on leur a pas dit dès l'âge de 3 ans, viens Jean-Luc, voilà. Parle-moi de ton week-end. Même si tu dis des choses très, très, très bateau, c'est génial, c'est formidable. Non, ils sont formés sur le tas donc ils ont besoin de ressources.
C'est ça, exactement. Et ils sont très démunis et même... je dirais même parfois en grand danger psychologique, même parfois parce que le débat du conseil
violent.
Municipal est très très violent.
Ah ouais, c'est violent.
Ils s'en prennent plein la tronche.
Avec des attaques personnelles.
Et en effet, ils ont ces modèles, comme tu le disais, très formatés du politicien avec la petite phrase, avec une certaine emphase dans la parole, alors qu'on en a tous marre de ça. On a envie de voir des gens qui nous parlent vraiment, en fait.
Ouais. Mais, voilà. Donc tu choisirais Ségolène Royal?
Bah écoute, oui, je crois que c'est trop tard. Maintenant, elle va chez Cyril Hanouna, j'ai vu à la rentrée.
Ah, il y aurait peut-être du boulot.
Il y a de la marge.
Ben c'est très intéressant. François Hollande, j'avais lu à l'époque, en 2012, il s'était fait accompagner par Marco Becco, qui était le prof de chant de la Star Academy, saison 2 ou 3, je crois. Emmanuel Macron, dans la semaine qui a suivi, c'est notre projet, où il s'est égosillé, s'était fait accompagner par un chanteur d'opéra aussi.
Ah, sur la gestion de la
souffle.
Distance vocale et du
souffle.
Oui, tout à fait.
Donc effectivement, ça illustre tout ce que tu as dit. On peut qu'être d'accord avec tout ça. Il va bientôt être l'heure de clôturer cet échange qui est passionnant. Si j'avais le choix, je resterais toute la nuit dans le théâtre. Il n'est pas loin de 16h.
Je vais te laisser les clés, écoute.
Ah, trop bien. Maintenant, si tu avais une ressource, un documentaire, un livre, un article, un film, qu'est-ce que tu aurais à conseiller à nos auditeurs autour soit de l'art théâtral, soit de la prise de parole en public?
Alors, j'ai parlé tout à l'heure de Peter Brook, c'est un immense, immense, immense metteur en scène. Il y a beaucoup de gens qui lisent, quand ils essaient d'être comédiens, ils lisent un livre qui s'appelle L'espace vide, qui est très intéressant. C'est comment, justement, on fait de cet espace vide, là, comme tu le vois juste à côté de nous, hein, puisqu'on est à côté de la scène du Théâtre des Beaux-Arts, comment on en fait un lieu théâtral, comment il va se passer quelque chose. Mais il y a un livre que je trouve intéressant, même pour les gens à l'oral, alors c'est un peu la première moitié du livre, la deuxième moitié est moins intéressante, mais on s'en fiche, qui s'appelle « Le diable, c'est l'ennui ». Et de quoi ça traite? C'est comment on va capter l'attention des gens. Alors, bien sûr, au théâtre, parce que c'est plus difficile qu'au cinéma. On n'a pas de bande-son, en Dolby stéréo, on n'a pas des effets spéciaux dans tous les sens. Tout ça est beaucoup plus fragile. Comment on fait et comment on sent, même dès l'écrit, qu'on va être intéressant ou pas, on capte l'attention. Et ce livre est passionnant, il y dit plein de choses que je vous laisse découvrir. Voilà, ça s'appelle « Le diable, c'est l'ennui », parce qu'en effet, dès qu'on ennuie les gens, et maintenant, malheureusement, on a en face de nous des médias qui nous draguent littéralement, qui viennent nous choper les neurones de tout ce qu'on a sur Internet. Tout va très vite, tout est monté, extrêmement efficace, avec du son. Comment on fait, même à l'oral, tout simplement, quand on n'a pas forcément son PowerPoint, et tant mieux, même parfois, comment on fait pour être intéressant, pour capter les gens? Et justement, c'est en lien avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur ce qu'on va mettre de soi, de sincérité, comment on va faire et comment on va casser les codes un peu de temps en temps pour surprendre et se dire « Waouh, dis donc, tiens, j'ai envie de l'écouter. » Voilà.
Ah ben, génial, alors, voilà. Merci beaucoup, je ne connais pas du tout. Voilà. Et l'auteur du Diable, c'est l'ennui,
Peter Brook, immense metteur en chaîne.
Je vais vite aller chez Mola ou dans une autre librairie bordelaise me le procurer. Merci beaucoup Loïc. Maintenant, si tu avais en signature de cet épisode une citation, une punchline, un aphorisme qui t'accompagne un peu au quotidien.
Là, tu me prends un peu de cours. J'en ai lu des très belles cette semaine de Naval Ravikant, que tu connais peut-être,
c'est un
immense ponte de la Silicon Valley. Et alors, je vais essayer de me rappeler d'une comme ça, mais en fait, en gros, ce qu'il dit, c'est que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, n'essayez jamais de devenir quelqu'un d'autre que vous, vous ne le serez jamais, vous serez toujours vous. Et cette personne qui peut-être que vous admirez beaucoup ne sera non plus jamais vous, tout simplement. Mais bien sûr qu'on peut, on le fait tous les jours, tous les deux, et essayer de faire progresser les gens, leur faire travailler des choses. On l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas inné. Mais la vraie personne que l'on est, justement, plutôt que souvent d'essayer de l'effacer, de se dire « Oh là là, je suis terrible là-dedans, je suis très mauvais là-dedans, j'arrive jamais à faire ça », eh bien, c'est peut-être la première matière première que l'on a et qu'il faut optimiser. C'est justement cette personne, si on la met vraiment en avant et qu'on sait ce qu'elle a de bien et de bon et qu'on sait le voir ou qu'on sait se faire aider pour arriver à le voir, c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. Ça, plus du travail, évidemment, mais c'est ça. Quand il dit « n'essayez jamais de devenir littéralement une autre personne », ça n'est jamais souhaitable d'essayer de devenir quelqu'un d'autre que soi.
Oscar Wilde dirait « les autres sont déjà pris ».
Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement
soyez
ça.
Vous-même, les autres sont déjà pris.
Ben voilà.
Et ça m'évoque une interview que j'avais adorée. Elle date un peu de Vincent Cassel, donnée par Michel Denisot.
Ouais.
C'est une émission qui n'a pas duré très longtemps. Il se baladait dans les rues de Montmartre et Michel Denisot, au gré des quartiers, remonter un peu le parcours de Vincent Cassel, fils de Jean-Pierre Cassel, éminent comédien, danseur, virtuose, virtuose. Et en fait, Vincent Cassel, ça m'avait marqué parce que j'aime bien son style, il est très charismatique. Et il raconte, je suis en école de cirque, puis en école de cinéma, et je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec cette tronche-là? Cette tronche un peu atypique que j'ai, parce qu'il a une voix, il a une présence, mais c'est vrai qu'il a un physique particulier. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je ne me ferai pas juge ici dans le podcast, mais il dit, qu'est-ce que je peux faire avec cette tête de héron? Eh bien, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même et je vais arrêter de me comparer, ni au père, ni aux autres.
C'est exactement ça.
Et je vais essayer d'être à 100% de moi-même.
Ouais, c'est exactement ça.
Et je me souviens de cette phrase-là, qu'est-ce que je vais faire avec cette tête de héron?
Ouais,
je me suis dit, tout Vincent Cassel qu'il est, c'est formidable d'entendre ça.
C'est formidable. Mais c'est ça. Et si tout le temps qu'on passait à essayer de se dire « je ne suis pas bon là-dedans, il faut que j'arrive à faire ça, il faut que j'arrive à faire comme lui ou comme elle », si on utilisait tout ce temps qu'on passe souvent là-dedans à simplement s'intéresser à soi et à se dire bah, « allez, qu'est-ce que je peux faire avec cette tête de héron ?» là, c'est exactement ça. Et ben voilà.
Voilà. Merci beaucoup Loïc, c'est bien noté.
Tu vois, il va falloir que j'aille décrocher, forcément.
Rendez-vous est pris, un grand merci pour ce moment de partage, pour ta générosité.
Merci beaucoup David pour ta curiosité, ton écoute, des vraies valeurs tu vois, d'acteur sur scène.
Merci. Et puis chers auditeurs, à très bientôt. Pensez, si vous avez aimé cet épisode ou si vous voulez suivre les futurs, pensez à vous abonner. Et je vous dis donc à très vite. Au revoir.
Au revoir.
Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le faire savoir en lui laissant une belle note ou en le partageant et le commentant sur les réseaux sociaux. Que ces conseils de communication puissent vous être utiles et à vos proches. Je m'appelle David Jadar et vous pouvez me retrouver sur mon site internet lesoral.fr.